Les meeples sont de sortie. C'est la pause à midi. C'est ludique, c'est ludique. Les jeux, c'est magique.
Et bonjour à tous, bienvenue dans C'est Ludique, on est le lundi 18 novembre, j'espère que vous allez bien, vous avez passé un bon week-end et vous avez profité pour jouer, et c'est bien là l'essentiel. Aujourd'hui je vais vous parler d'un jeu qui va faire exploser la table, enfin on va parler de bombes, et oui, on va parler de Time Bomb Undercover, le nouveau Time Bomb, parce que c'est le troisième, hein. Je vous expliquerai ça d'ici quelques instants, et puis on retrouvera Morgane, oui exceptionnellement aujourd'hui, pour soirée jeu. Voilà, c'est ludique, et eh bien ça commence tout de suite.
C'est la pause déjeuner, Matt pour t'inviter à jouer. C'est ludique, encore plus de nouveautés.
Et au menu aujourd'hui, donc c'est Time Bomb Undercover de Quentin Shoemaker, Yusuke Sato, illustré par Amélie Guinet. Alors ce jeu de bluff et de déduction pour 4 à 8 joueurs à partir de 8 ans est édité par Yellow. Alors on connaissait déjà un Time Bomb, un classique des party games, puis nous avons eu le droit à Time Bomb Révolution, et voilà donc une version revisitée du premier Time Bomb Undercover qui va apporter un nouveau rôle, celui de l'ombre. Mais pas seulement, car des faux agents seront aussi infiltrés, le but étant pour l'équipe rouge, Mr. Hitch et son organisation de faire exploser la bombe, alors que l'équipe bleue emmenée par l'espion Jack Berville est de la désamorcer. Vous avez compris, une seule équipe gagne, mais l'un de vous sera l'ombre, on va y revenir. Alors au niveau de la mise en place, chaque joueur va recevoir une carte rôle, et dans le coin, en bas de la carte, vous aurez le symbole bleu ou rouge, mais vous pouvez être bleu avec un symbole rouge pour bluffer vos adversaires, car tous les joueurs vont montrer ce symbole grâce à une carte cache qui ne laisse apparaître que celui-ci. Selon le nombre de joueurs, il y aura plus ou moins de personnes dans l'organisation et dans l'agence. Une chose est sûre, il y aura toujours un joueur qui joue l'ombre. On va prendre également un nombre de cartes câbles sécurisées, câbles désamorcés selon le nombre de joueurs. Et bien sûr, il y aura aussi toujours la bombe. Si vous jouez à 6 par exemple, vous prenez 23 câbles, 6 désamorcés et une bombe. La nouveauté, c'est aussi les cartes lieux qui vont rajouter des conditions. La partie se déroule en 4 manches, on distribue les cartes câbles et vous êtes prêt à jouer. Chaque joueur regarde ses cartes, les mélange et les place devant lui. On révèle donc la première carte lieu, la partie peut commencer. Mais alors comment on joue ? À votre tour, vous allez devoir couper un câble en posant la pince sur l'une des cartes des autres joueurs. Si c'est un câble sécurisé, rien ne se passe et le joueur qui s'est fait couper le câble prend la pince et fait de même. Tant qu'il y a des câbles sécurisés, ça va. Si vous coupez la bombe, là ça explose et l'équipe rouge a gagné. Si c'est un câble désamorçage, vous le mettez de côté. Si c'était la dernière carte désamorçage, c'est l'équipe bleue qui gagne, sinon ça continue. Attention, il y a Shadow. Shadow, c'est l'ombre. L'ombre, pour l'emporter, devra lui-même faire l'action. En gros, s'il est rouge, il doit couper la bombe. Et s'il est bleu, sectionner le dernier câble de désamorçage, sinon il perd. Chaque manche se termine après que le nombre de cartes câbles révélées soit égal au nombre de joueurs. À chaque nouvelle manche, vous aurez donc une carte câble en moins devant vous, puisque l'on va redistribuer les cartes qui n'ont pas été révélées, tout simplement. La partie s'arrête à la quatrième manche. L'une des deux équipes remporte la partie. Pour une partie à 4 joueurs, il y aura un jeton fatalité pour l'ombre, pour savoir de quel côté est Shadow. Alors ce que j'en pense, j'aimais déjà beaucoup Time Bomb et Time Bomb Evolution. Undercover est encore meilleur avec le rôle de l'ombre et les nouvelles conditions à chaque manche grâce aux cartes lieux. Je pense qu'au fur et à mesure, il devrait devenir le futur classique de la gamme. En tout cas, si vous ne connaissez pas Time Bomb, c'est le moment de le découvrir. Voilà, ça s'appelle Time Bomb Undercover et c'est sorti il y a quelques jours chez Yellow. D'ici quelques instants, on va retrouver Morgane pour Soirée Jeu.
C'est la pause déjeuner. C'est ludique, les soirées, je sais, magique.
Alors, on n'a pas l'habitude de retrouver Morgane le lundi pour nous parler de ses soirées-jeux avant le week-end. Là, c'est ses soirées-jeux après le week-end. Bonjour Morgane.
Salut.
Ça va bien depuis jeudi ?
Oui, ça fait tout bizarre le lundi, mais oui.
Ah, voilà, ça fait bizarre le lundi. En tout cas, on retrouvera Ludo dès la semaine prochaine. Alors Morgane, aujourd'hui, tu as t'as joué ce week-end, forcément, tu as joué à plein de jeux. Et tu vas nous parler de trois jeux.
C'est ça, on va parler de trois jeux. Alors j'ai découvert, il y en a un que j'ai découvert la semaine d'avant, les deux autres que j'ai bien joué vendredi, donc tout va bien.
Ah bon, bah ça va alors, on est dans les... c'est réglo.
Du coup, on va commencer par Divinus. J'avais dit vous en parler déjà à mon retour de Vichy, parce qu'à la présentation, c'était sûrement le jeu que j'attendais le plus en cette fin d'année avec oui. Behind.
T'as fait une campagne, c'est ça
sorti... C'est ça, c'est une campagne, ouais. Donc maintenant qu'il est sorti, j'en ai fait quelques parties, donc je peux enfin vous en parler vraiment. Divinus, c'est un jeu de Philippe Milunski, c'est illustré par trois personnes dont je ne prononcerai pas les noms parce que
c'est
un respect pour eux, pour la prononciation, je suis incapable de les prononcer. Et ça vient donc de sortir chez Lucky Duck Games. Donc comme tu as dit, on est sur un jeu à campagne façon Legacy, donc je vais pas trop vous en dire non plus sur le jeu.
Bah, merci beaucoup Morgane, alors.
Voilà, le plaisir de découvrir les ajouts. On peut arrêter là si tu veux, mais non, je peux quand même en parler un peu.
Oui, un petit peu quand même.
C'est ça, donc c'est une campagne de 12 parties et en fait on est sur un jeu hybride parce qu'on va avoir une application mobile qui va nous permettre de suivre la campagne et de tout enregistrer vraiment de nos parties.
Ouais.
À la base c'est un jeu de pose de tuiles, donc en fait on a des demi-dieux qui s'affrontent pour gagner des faveurs des panthéons nordiques et grecs, donc c'est les nordiques qui affrontent les grecs, et on va devoir réaliser différentes quêtes tout au long des parties pour recueillir leurs faveurs. Donc en fait, on aura tous notre petite boîte de demi-dieux avec nos dés dedans. Et en fait, ces dés, c'est ce qui va justement nous permettre d'aller récupérer des tuiles et d'explorer des lieux sur le plateau central. Donc selon le nombre de joueurs, t'en lanceras plus ou moins. Là, nous, on fait la campagne à 4 joueurs. On a 4 dés. Dans la boîte, il y en avait 6. Donc je pense que quand t'es moins, t'en lances plus.
D'accord.
Et en fait, sur le plateau central, les tuiles, elles sont dans des emplacements qui sont numérotés de 1 à 12. Donc à notre tour, on va avoir le lancer de dés qui sera fait en début de manche. Et à notre tour, on va donc choisir un ou plusieurs dés devant nous. Et en fait, en les additionnant ou en les soustrayant entre eux, ils vont nous donner l'emplacement de la tuile qu'on va aller récupérer.
Okay.
Donc si j'ai un 4 et un 6, c'est soit je vais chercher la tuile qui est sur l'emplacement 10, soit je vais sur la 2 parce que j'aurai soustrait les deux valeurs.
Mmh.
Cette tuile, une fois récupérée, on va placer nos dés qui ont été utilisés dessus. Et en fait, la tuile, on va la placer devant nous. On va commencer à construire notre zone de jeu. Donc c'est une zone qui sera représentée par une grille de 4 par 4 maximum. Et en gros, la fin de partie, elle est annoncée quand un joueur aura rempli entièrement sa grille. Et là où c'est malin, c'est que justement, on va pas faire jouer que 16 tours pour avoir nos 16 tuiles devant nous, parce qu'on va aussi pouvoir recouvrir des tuiles qu'on aurait jouées déjà avant.
D'accord.
Ça peut être plus long que 16 tours, et tout le monde n'aura pas fini sa grille forcément à la fin de la partie. Et en fait, on va réaliser des zones de terrain, d'eau. Alors, il y aura de l'eau, de la plaine et de la montagne. Et selon les dieux de la partie, les zones, elles vont nous permettre d'avoir des faveurs de chacun d'entre eux. Donc, à chaque partie, tu auras au moins deux dieux. Donc, il y aura un grec, un nordique. Et il y aura des objectifs qui seront associés avec. Et en fait, ça va orienter notre façon de placer nos tuiles parce que c'est ça qui va nous permettre d'atteindre leurs demandes.
Ouais.
Par exemple, tu vas avoir d'un côté un dieu qui va te demander d'avoir la plus grande zone d'eau. Et l'autre, il va te demander d'avoir le plus de zones d'eau.
Ah oui.
Donc des zones différentes. Et en fait, c'est là que t'orientes un peu ton choix de dieu, celui dont tu veux les faveurs vraiment. Et en fait, quand on n'a plus de dés, on se repose, donc on les récupère et on les relance. Et surtout, on va continuer à jouer de cette façon-là. Et c'est aussi à ce moment-là que les tuiles seront remises lorsque les dés seront retirés. Donc c'est là que tu vas avoir du nouveau choix pour avoir des nouveaux lieux à explorer. Donc au fur et à mesure de la partie, tu vas coller des autocollants sur les tuiles.
Mmh.
Tu vas récupérer des artefacts, des capacités définitives pour tes dieux. Et en fait, c'est tous ces ajouts qui vont permettre de découvrir l'histoire qu'il y a autour de Divinus. Parce que les lieux, on va les scanner avec l'application et ça va nous obliger à faire des choix qui vont influencer tout le reste de la campagne. Donc j'ai vraiment trouvé ça bien fait parce que l'application, elle mémorise vraiment tout et ça te permet de continuer l'histoire petit à petit en s'adaptant aux choix qui ont été faits par chacun des joueurs.
T'es obligé de jouer avec les mêmes personnes du coup ou pas?
Pour la campagne.
Bon.
Après, je crois que dans l'application, tu as une option où tu peux supprimer un joueur. Ouais, supprimer un joueur de l'application. Mais c'est vrai que du coup, si moi je vais visiter un lieu d'une autre personne, je peux influencer ce qui va se passer sur ce lieu.
Ouais.
Donc donc c'est hyper bien fait. Là, c'est l'essentiel des règles de base. Là, on en est à 5 parties sur les 12 qui ont été faites.
D'accord.
Donc j'ai vraiment hâte de voir la suite pour voir ce qui nous attend. Le fait que l'histoire, en fait, elle change en fonction du choix qu'on fait, c'est vraiment bien foutu. Comme tout jeu Legacy, c'est vrai qu'au début, t'as un peu de mal à t'imprégner des règles. Tu comprends pas trop ce que tu dois faire. Et c'est là que c'est bien fait parce qu'on découvre vraiment les subtilités des choix au fur et à mesure. T'améliores tes dés, tu découvres des nouvelles suites à l'histoire. T'as des conséquences aussi qui vont apparaître. Et le côté Legacy, il peut quand même perturber parce qu'il est accompagné d'une grosse partie narrative, justement, avec l'application. Mais vraiment, c'est quelque chose qui est hyper immersif et je peux vraiment vous le conseiller. À savoir, par contre, que la campagne, une fois que la campagne est finie, t'as un mode éternel.
D'accord.
Donc comme les autres Legacy.
Ouais.
Voilà, tu peux continuer de jouer et il y a surtout un pack de remise à zéro qui est prévu. Et ça, c'est pareil avec tous les Legacy, donc je trouve ça vraiment sympa. C'est que tu peux acheter ce pack, remettre tous les éléments à zéro et refaire une campagne derrière.
Faut que tu rachètes, c'est pas un système qui remet ton pack. Il faut que tu rachètes le... Le pack.
Ouais, bah, t'as un petit pack voilà, à côté qui sera vendu et qui te permet de récupérer les autocollants,
les choses comme ça. Tu collais des autocollants sur les tuiles et tout, quoi.
Voilà, mais c'est pas comme un MyCity où tu t'as pas de pack de réinitialisation, en fait. T'es obligé de tout racheter si tu veux la refaire, quoi.
Ok. Très bien. Donc ça, ça vient de sortir il n'y a pas très longtemps et c'était un financement participatif, mais c'est sorti aussi en boutique peut-être ?
Oui, c'est ça, ouais. C'était un financement participatif, hein, je crois qu'il était il y a 2 ou 3 ans.
Ouais.
Et là, il vient de sortir en boutique. Il y a aussi 2 extensions qui sortent en même temps. Donc ça a l'air d'être bien parti pour fonctionner, donc j'espère que ça va marcher.
Du gros jeu, à partir de quel âge ?
Je crois que c'est du 10 ans.
D'accord, ouais, donc ça va.
De 10 ou 12 ans, mais il est accessible, hein, le jeu de pose de tuiles, vraiment, c'est jeu de pose de tuiles basique.
Ouais.
Hein. C'est, tu fais tes zones de terrain, c'est vraiment la partie narrative qui te prend le plus de, de choix dessus, mais il reste accessible, mais ça doit être 10 ou 12 ans, j'ai pas fait gaffe à l'âge dessus.
Très bien.
Attends, j'ai peut-être ma boîte pas très loin, mais je sais pas où elle est.
Eh ben, merci beaucoup Morgane. Alors, autre jeu que tu as fait.
Et bien, autre jeu, ça va être Lose. Du coup, t'en as déjà parlé sur C'est Ludique en septembre. Mais pour le coup, moi, je vais jouer pour la première fois vendredi. J'avais hâte aussi depuis que je l'avais entrevu à Vichy. Donc, c'est un jeu de
tech. Il était temps d'y jouer. Moi, j'y ai joué cet été. Hein.
Mais il n'était pas sorti en boutique, monsieur, encore. C'est un jeu de Taiki Shinzawa qui est illustré par Crocotam et c'est donc sorti tout récemment chez Yellow. On est sur un jeu de plis, mais un peu particulier. Et si tu l'as mentionné la semaine dernière, c'était pas pour rien pendant ma chronique, parce que j'ai parlé d'Anabi.
Oui.
Et on retrouve la mécanique du jeu de cartes caché que nous, on voit pas en fait.
C'est
celle
ça.
Où c'est les adversaires qui vont voir toutes nos cartes, mais pas nous. Donc dans Lose, bah, du coup, il va falloir qu'on arrive à parier le nombre de plis qu'on va penser réussir en ne connaissant que la couleur de nos propres cartes. Et en connaissant en fait les valeurs de l'adversaire, les valeurs des cartes de l'adversaire, enfin des adversaires. Donc pour jouer, c'est assez simple, on va récupérer tous 10 cartes en main, on va les classer en ordre de couleur et de valeur et donner le tout face cachée à notre voisin. En gros, on prépare sa main pour pas qu'il voie ce qu'il a comme carte et ensuite on va parier notre nombre de plis en regardant du coup les cartes de nos adversaires, mais faut faire attention parce qu'il y aura aussi 10 cartes qui seront écartées du jeu. Et donc, personne ne connaîtra la valeur et la couleur. Et ça peut rapidement faire mal.
Ah bah oui.
Donc, pour annoncer du coup le nombre de plis qu'on pense réaliser, on va prendre des billes en fait en fonction. On pourra aussi prendre une bille bleue, c'est une bille de sécurité. Si on pense qu'un pli supplémentaire à notre pari n'est pas impossible à réaliser, cette bille, du coup, elle permet de se laisser un peu une petite marge de sécurité.
Ouais.
Mais si notre pari est réussi, on aura moins de points du coup avec. Donc, on joue 4 manches de 10 plis et en fait, à chaque manche, les points d'un pari réussi augmenteront. Donc forcément, si on se plante, on va perdre des points, on perd 5 points par pli de différence avec notre pari initial. Pour le coup, j'ai trouvé les sensations hyper agréables. En fait, à la première manche, tu joues un peu comme tu peux, sans trop savoir ce que tu vas devoir et pouvoir faire. Mais en fait, après, t'as la déduction qui commence à se mettre en place, te dire « Ah ouais, mais je dois avoir cette carte-là ». Mais tu te dis qu'elle peut aussi être dans les 10 cartes qui ont été virées. Donc j'ai eu le cas, hein, moi j'avais, je voyais le 7, 8, 9, 10 qui était dans 7, 8, 9 qui était devant dans les cartes de mes adversaires. Et je me suis dit, c'est bon, j'ai le 10 violet, je peux y aller.
Ouais,
et en fait, pas du tout, j'avais un 2.
Ouais,
donc c'était un pari bien raté. Donc après, t'as aussi t'as quand même une part de hasard non négligeable hein, sur la distribution des cartes.
Oui.
Mais ça, c'est dans tout jeu de plis. Mais c'est vrai que ta déduction, elle va te permettre quand même d'essayer de parier au mieux possible parce que tu vois les cartes des adversaires. Donc tu sais que voilà, tu peux avoir certaines cartes. Ça devient vachement plus tactique et stratégique qu'on le pense. Et du coup, on a vraiment des mécaniques entre Anabi pour les cartes cachées et un School King pour les paris. Moi perso, j'adore les jeux de plis, donc celui-là il m'a bien convaincu sur sa mécanique.
Ça marche très très bien, Louz.
Ouais, j'ai hâte d'y rejouer parce que vraiment ça m'a surprise agréablement, quoi.
Un gros coup de cœur, Louz, de cette année. Tu voulais nous parler d'un autre jeu.
Je vais parler d'un dernier jeu, c'est Paperback.
On connaît pas.
Donc c'est un jeu de Tim Fowers qui est illustré par Ryan Goldsberry, édité chez Fowers Games. C'est un jeu qui a été financé sur Kickstarter, mais qu'on trouve facilement maintenant sur les boutiques spécialisées en ligne.
D'accord.
Tu avais une offre, quand il a été proposé en français, tu avais une offre qui permettait de l'avoir pour les boutiques.
Paperback, ça s'appelle.
Donc, t'as des boutiques qui ont pu le commander. On est sur un jeu où il va falloir réaliser des mots grâce à nos cartes qui contiennent des lettres, mais on est aussi sur une mécanique de deck building. En fait, tu vas créer des mots avec tes cartes. Donc, ces mots, en fait, c'est façon Scrabble. Hein. Tu vas vraiment faire comme si tu avais tes petites pièces de Scrabble, mais sauf que tu vas créer des mots. Et en fait, ces mots qu'on va créer, ils vont nous permettre d'acheter de nouvelles lettres. Donc c'est tout simple, mais vraiment, je me suis prise au jeu dès le départ. Donc on a tous un set identique de cartes de départ qui contient quelques consonnes et des jokers qui vont nous servir du coup pour faire des voyelles généralement.
Ouais.
Chaque carte, elle contient une valeur aussi qui va nous permettre du coup d'acheter ces futures cartes qu'on voudra récupérer. notre deck de lettres, il va donc s'améliorer au fur et à mesure, à prendre de plus en plus de valeur aussi pour récupérer des cartes célébrités qui, elles, feront plein de points en fin de partie. Et en fait, là où c'est malin, c'est que tu n'auras pas besoin forcément de faire des longs mots pour avoir assez de crédit pour acheter des cartes, parce que bah, tu as des cartes qui valent vraiment, qui ont une bonne valeur et qui te permettent, même avec des mots courts, d'avoir assez pour aller les chercher. Parmi les cartes que tu vas avoir, en plus, tu vas en avoir qui auront deux lettres dessus. Donc elles sont plus compliquées à placer, hein, parce que bah, faut que t'aies vraiment les deux lettres qui suivent dans ton mot, ouais. Mais elles rapporteront plus de points aussi. Donc on va forcément se creuser le cerveau pour essayer de faire des mots déjà corrects et surtout des mots où on pourra essayer de récupérer des lettres bonus, parce qu'en fait t'as des lettres bonus qui sont communes à tout le monde, qui sont visibles de tous, que tu peux utiliser à n'importe quel moment dans ton tour pour poser ton mot. Mais cette carte, si t'arrives à faire un mot par exemple de cette lettre qui la contient, tu vas la récupérer et la prochaine carte bonus visible, elle sera récupérable si tu fais un mot de 8 lettres avec, et ainsi de suite. Donc en fait, paperback, ça te dépoussière le Scrabble.
D'accord.
Vraiment.
Okay.
C'est vraiment une proposition ludique qui, en fait, avec son mélange avec le deck building, ça te donne envie d'y retourner parce que tu crées toi-même ta main de lettres.
Ouais.
Donc c'est vrai que généralement, les lettres comme le K, le Y et compagnie, tu vas pas forcément aller les chercher trop vite, même si elles te font plein de points. Hein, mais tu sais que c'est des lettres que tu vas galérer à placer. Et surtout, tu peux facilement y jouer avec les plus jeunes. En fait, c'est comme Dictopia. Je sais pas si tu connais Dictopia.
Oui, ouais.
Voilà. Mais t'as pas besoin d'être un expert en orthographe ou d'avoir un dictionnaire dans
d'accord.
ta tête. Pour y jouer, voilà. Moi, le Scrabble, c'est toujours ce qui m'a un peu énervé, c'est qu'en fait, pour faire des gros mots et des choses qui marquent beaucoup de points, faut que t'aies un dictionnaire dans ta tête, quoi.
Ouais.
Au bout d'un moment, là, t'as vraiment pas besoin de ça. T'as aussi des bonus supplémentaires sur les cartes qui sont rajoutées à ton deck. Donc, ça va te permettre d'avoir plus d'argent ou de considérer une carte que t'as comme un joker. En fait, c'est vraiment le côté agréable à retrouver ces mécaniques dans un jeu de lettres, parce que bah, c'est pas souvent que t'as des deck building dans des jeux de lettres, et même si parfois t'as des mains foireuses de cartes où tu sais que tu vas rien pouvoir faire avec, tu cherches quand même à faire un mot qui va passer, même si c'est un mot de 3 lettres, tu penses qu'il va passer, bah il passe, et bah c'est bon, tu peux aller quand même acheter tes cartes. Comme tous les jeux de deck building, ça va être un peu long à démarrer, parce que bah, faut que, tant que tu fasses ta main quand même de lettres,
ouais.
Mais au final ça avance hyper vite. Et rapidement, tu vas réussir à faire de plus en plus de mots longs. Il y a aussi des variantes de jeu dans les règles avec, t'as des thèmes imposés, t'as des nouveaux bonus. Je les ai pas encore essayés, mais j'espère pouvoir le faire bientôt. En fait, voilà, si t'as vraiment envie de retrouver des sensations de jeu de mots, de jeu de lettres, sans sortir un Scrabble, et ben, c'est vraiment une bonne alternative.
C'est
et
possible.
Qu'on peut jouer en famille, voilà, avec toutes les générations, tu peux y jouer sans problème, quoi.
Très bien. Eh ben super, merci
voilà.
beaucoup Morgane.
Est-ce
qu'il y a des jeux là que t'as envie de jouer, tu te dis, ah, celui-là, là, il me plaît bien, j'aimerais bien le jouer là.
Là, le prochain que j'ai envie de jouer, ouais, c'est Monkey Palace.
Monkey Palace. Ah, t'as pas joué à Monkey Palace ?
J'ai pas encore joué.
Ah.
Il attend sagement, mais le fait qu'ils aient peut-être réussi à faire un jeu Lego qui
ouais.
soit vraiment réussi, ça, j'ai hâte de voir.
Ça marche.
Donc j'ai ça, et il y a The Gang aussi.
Et The Gang, ouais. Ah bah The
ouais.
Gang, ouais. Il va falloir attendre encore un petit... Oh, dans...
Je crois qu'il arrive bientôt, là.
Ouais,
il arrive,
début décembre.
Et puis Behind. Qui est sorti ou qui sort cette semaine ou qui est sorti la semaine dernière.
Tu as fait la démo, je suppose.
Oui, j'ai fait la démo,
voilà.
Mais j'ai hâte de faire les vrais
mais
puzzles
oui,
dedans.
Bien sûr. Donc voilà. Et puis si tu veux te creuser la tête, si tu veux un gros jeu, j'ai lu la règle tout le week-end. Ça s'appelle Unconscious Mind.
Oui, j'ai regardé, j'ai vu ça.
La société du mercredi. Alors, j'ai lu là, mais ça a l'air d'être passionnant. En plus, tu rentres vraiment dans la thématique. J'ai hâte de jouer. Surtout qu'Angèle m'a dit qu'elle avait fait une première partie et qu'elle avait adoré, qu'elle avait envie de refaire une. Donc,
j'ai hâte d'écouter, ouais, parce
voilà.
que là, vraiment, celui-là, il m'a intrigué. Quand j'ai vu que tu avais lu les règles, je me suis dit, il faut que je regarde ce que c'est, parce que
ouais.
ça m'intrigue.
C'est un des plus gros jeux experts, apparemment, de cette année, quand même. Hein.
Ah oui, d'accord.
Ouais,
okay.
Ah oui.
Je... À surveiller ça.
Donc, voilà. Ouais. Et puis, alors, on est vraiment dans la psychanalyse, hein, donc, c'est...
Ah oui.
Alors, jeu expert plus psychanalyse, croyez-moi,
ouais.
ça va être corsé.
Un bon combo, là.
Merci beaucoup, Morgane. On se retrouve, alors, pas jeudi, là, mais on se retrouve le jeudi d'après.
Ça marche,
voilà.
La semaine prochaine.
Salut, Morgane.
Salut.